Déclic, quel monde voulons-nous ? Avec David Amiel et Paul-François Chira. David Amiel est tout jeune, mais il a déjà eu le temps d'avoir été conseiller de l'actuel président de la République pendant les deux premières années de son mandat. Et il vient d'écrire, avec Ismaël Emelien, qui était lui conseiller spécial d'Emmanuel Macron, un livre manifeste, « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Paul-François Chira, lui-même, jeune conseiller d'État et enseignant de droit public à l'École normale supérieure et à Paris 1, publie son premier essai sous le titre « La demeure des hommes pour une politique de l'enracinement ». Des concepts aux personnes, tout oppose, on le voit, mes deux invités du jour. Mais avant qu'ils ne s'affrontent, avec la fermeté et la courtoisie requise, je voudrais leur demander, non pas contre quoi, mais en faveur de quoi ils combattent. Pourquoi vous êtes-vous engagé ? Pour quel avenir ? Pour quel monde, David Amiel ?
Je crois que ce qui rend la période à la fois passionnante et inquiétante, je pense pour à la fois pour Paul-François Chira et pour moi, et puis pour tous ceux qui s'intéressent de près à la vie politique, c'est qu'on voit qu'on sort d'un monde, celui de l'affrontement de la gauche et de la droite tel qu'on l'a connu notamment pendant les décennies passées, mais qu'on ne voit pas encore très bien dans quel monde on entre. Je pense que si on regarde de plus près notre époque, ce qui est très frappant, ce qui est presque paradoxal, c'est qu'il y a d'un côté une pacification idéologique et de l'autre une incandescence sociale. La pacification idéologique, c'était, vous nous demandiez quel monde nous voulons, c'est qu'en quelque sorte, nous sommes parvenus, je crois, dans la société française et puis plus généralement dans les sociétés occidentales, à un certain degré d'accord inédit à la lumière des siècles écoulés sur ce que nous voulons. Je dirais en un mot que nous voulons vouloir. C'est-à-dire que l'idéal fondateur de notre société, celui qui est né des Lumières, est celui de l'autonomie, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise le plus possible de son destin et d'exercer cette maîtrise à l'aide de notre raison. C'est le cas au niveau individuel, choisir sa vie, pouvoir s'en sortir par son mérite et son effort. Et puis c'est le cas au niveau collectif, et j'y reviendrai. Donc cet idéal de la démocratie libérale a triomphé de toutes les grandes alternatives qui se dressaient contre elle. Et je crois qu'il n'existe toujours pas d'alternative convaincante. Et en même temps, il y a une grande frustration, une incandescence sociale, tout simplement parce que la promesse d'autonomie a divorcé d'avec les faits. Et je crois qu'il suffit pour ça de regarder les existences réelles. Quand on regarde les principaux paramètres de la vie, choisir sa vie professionnelle, on voit que c'est de moins en moins le cas avec l'effondrement de la mobilité sociale. Choisir son lieu de vie, c'est de moins en moins le cas avec la montée de la métropolisation, comme on dit, c'est-à-dire qui exile les classes populaires loin des lieux où se crée la richesse et où s'ouvre le plus de perspectives éducatives, culturelles. Choix des croyances, on voit la montée des intégrismes religieux, singulièrement au sein de l'islam. Choix des convictions, on voit le poids que font peser les algorithmes sur ce à quoi nous sommes exposés, et ainsi de suite. Et donc je crois que c'est cet écart qui explique une colère gigantesque. Alors comment s'en sortir ? Quel est le monde que nous voulons pour retrouver ce chemin de l'autonomie ? En un mot, je crois qu'il s'agit de s'écarter d'une vision naïve qui dirait que la liberté, l'autonomie, c'est faire ce que je veux. Nous avons besoin, au contraire, pour exercer notre autonomie, d'une puissance collective, si on ne veut pas qu'elle bénéficie uniquement, ce qui est le cas aujourd'hui, à une fraction de la population de plus en plus réduite. Et donc la défense de l'autonomie des individus ne passe pas par un individualisme fou, mais par une communauté politique forte. Avec tout ce que ça suppose, on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Donc je crois, pour conclure, que l'idée n'est pas neuve, au sens de ces principes-là. Au fond, ce sont les idées issues d'un républicanisme assez classique, mais je crois que la tâche de notre génération, c'est plutôt d'en tirer toutes les conséquences dans les sphères les plus pratiques.
Pierre-François Chira.
Ce pourquoi je me suis engagé et ce pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, c'était parce qu'il me semblait particulièrement nécessaire à notre temps de pouvoir se poser la question que vous nous posez aujourd'hui, qui est issue probablement de cette discussion de Hans Jonas avec Hannah Arendt, puisque la tâche de la politique est de transformer le monde en une demeure convenable à l'homme, se pose la question, qu'est-ce qu'une demeure convenable à l'homme ? Et il m'a semblé qu'il était essentiel de pouvoir, avant même de répondre à cette question, relégitimer le fait que l'on puisse se la poser. et le fait que l'on puisse se la poser collectivement. Aujourd'hui, les trois notions, demeure, convenable et homme, sont rebattues. On ne veut plus de demeure parce qu'on veut circuler librement dans le monde et en épuiser les richesses. La demeure nous paraît rigide, nous paraît lourde avec son inertie et ses contraintes. On ne veut plus de convenable non plus parce que le convenable suppose un jugement de valeur. Et dès lors que le jugement de valeur est indémontrable scientifiquement, dès lors qu'il s'oppose à cette appropriation de la vérité à laquelle faisait référence David Amiel dans sa présentation, eh bien il n'est plus possible de poser que quelque chose est convenable ou ne l'est pas. Et puis les hommes, la demeure convenable aux hommes. Nous ne supportons plus aujourd'hui qu'une demeure convenable puisse nous surplomber, puisse ne pas se résoudre simplement à une juxtaposition d'individus. Et le but de mon engagement et de ce livre, c'était d'être certain qu'à la question « Quel monde voulons-nous ?», on ne se borne pas à répondre ce que je trouve que David Amiel et Ismaël Emilien répondent dans leur livre, celui que tout le monde veut. Il me paraît beaucoup trop simple, beaucoup trop irénique de répondre à la question « Quel monde voulons-nous ?» par « celui que tout le monde veut ».
Oui, mais quand vous dites « Nous ne supportons plus le mot de demeure, le mot de convenable, et même sur le mot d'homme, on ne trouve pas d'accord », on peut dire que ce n'est pas forcément vrai. Il semble quand même que s'il y a un malaise dans notre société, c'est bien précisément parce que les gens ne trouvent plus dans le monde une demeure qui leur paraisse convenable. Puis Paul-François Chirard.
Vous me devancez, vous précédez mes paroles, puisqu'effectivement, j'en suis absolument convaincu. La difficulté sur laquelle vous mettez le doigt, c'est que des personnes, avec leurs mots, avec aussi leurs préoccupations, expriment un malaise profond que je définirais par trois mots, une crise de sens, une crise d'appartenance et une crise de reconnaissance. Et je pense que ces trois mots motivent de nombreux mouvements qui sous-tendent les mouvements de société que nous connaissons aujourd'hui, des plus politiques aux plus sociaux, comme avec les Gilets jaunes, mais parfois même, pour aller beaucoup plus loin, avec des mouvements de type totalitaire comme le salafisme. Mais effectivement, cette question, si on n'y répond pas, se recrée alors des collectivités artificielles autour d'idéaux eux-mêmes artificiels.
David Amiel.
Je crois qu'il faut faire attention avec la polysémie du mot « sens ». C'est-à-dire, est-ce que quand on parle du sens qui manque à notre société, on parle d'un manque de direction ou d'un problème de fondement ? Pour le résumer, est-ce que le problème c'est l'individualisme ou est-ce que c'est l'individu ? Si le problème du sens de notre société, ce que vous sembliez dire jusque-là, avec lequel j'étais tout à fait en accord, c'est de dire qu'il nous manque une maîtrise collective de notre destin, la politique ne sait plus où nous allons, elle ne se pose pas la question et elle a perdu les instruments de maîtrise des grands phénomènes qui affectent nos vies individuelles. C'est le cas de la transformation économique, c'est le cas de la transformation culturelle, c'est le cas de la transformation environnementale. Et le résultat, ce que vous disiez aussi Alain Finkielkraut, c'est que beaucoup de gens se sentent laissés hors de la route, en quelque sorte ballottés par des forces qui les dépassent, exilés de leur propre monde. Et il est bien évident qu'une autonomie de l'homme bien comprise nécessite, parce que nous sommes des êtres sociaux, de reprendre la main sur cette part sociale de nos existences. En ce sens, le problème, et nous sommes d'accord là-dessus, c'est l'individualisme. Et je crois que, pour le coup, l'autonomie que je défends est tout sauf l'anarchie.
Pas seulement, parce que dans votre livre, David Amiel, le livre que vous avez écrit avec Ismaël Emelien, vous dites que le triomphe de l'idéal d'autonomie individuelle est un fait essentiel de la vie politique depuis deux siècles. Vous ajoutez, l'individu hier avait des devoirs, il a désormais des droits. On pourrait vous objecter que cette autonomie n'est pas le seul besoin de l'âme humaine. Et là, je reprends les expressions de Simone Veil. Elle met la liberté, quand elle dresse la liste des besoins de l'âme humaine, elle n'oublie pas la liberté, elle n'oublie pas la liberté d'opinion, qu'elle distingue, elle distingue les deux, mais l'âme humaine, dit-elle, a besoin de responsabilité, elle a besoin d'ordre, elle a besoin de hiérarchie, elle a besoin de châtiment, ne fût-ce que pour être réintégrée ensuite dans la communauté, elle a besoin d'honneur, elle a besoin de vérité, elle a besoin de passé. Et on pourrait dire, en reprenant le vocabulaire de Paul-François Chirard, qu'elle a peut-être aussi besoin d'appartenance. Et que un grand malaise naît, par exemple, quand on n'a plus le sentiment d'être chez soi, chez soi. Donc tout cela ne peut pas être recouvert par le seul terme d'autonomie. Il y a là une difficulté, et donc il me semble difficile d'affirmer pour idéal du monde à venir la maximisation des possibles. D'autres enjeux existent, David Amiel.
Non, je crois que ce qui est important, c'est que dans ce livre, qui est un manifeste, comme vous l'avez dit, on n'a pas cherché à définir ni une métaphysique, ni une morale. On n'en aurait ni les capacités et on n'en a certainement pas la prétention. Ce qu'on veut dire quand on dit que l'autonomie est devenue l'idéal de notre société, et je m'appuie là-dessus beaucoup, donc je le cite sur Marcel Gauchet, et c'est au fond l'idée que pendant des siècles, sinon des millénaires, les sociétés se sont fondées sur un sens qui, en quelque sorte, tombait d'en haut, qui les transcendait, qui leur était fourni de l'extérieur par, pour reprendre aussi le thème de Marcel Gauchet, la religion, on pourrait aussi dire la tradition. Et la modernité, c'est l'évanouissement de cet ordre. Donc on lui a substitué la seule alternative valable, et qui, je crois, conditionne y compris notre discussion, c'est-à-dire le tâtonnement par la raison et par l'examen. Alors on a tenté autre chose, on a tenté le dogme moins la religion. Ça, c'était plus ou moins le totalitarisme. Mais désormais, je crois qu'on est condamné à vivre dans ce tâtonnement perpétuel à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Donc il y a bien sûr, c'est pour ça que vous parliez de demeure, il y a bien sûr un cadre d'exercice de cette réflexion, de ce tâtonnement. On ne peut pas le conduire seul pour des raisons évidentes. Et en ce sens, le développement de structures politiques vont de pair avec le développement de l'individu. On a bien besoin de l'État pour nous apprendre à être libres. On a bien besoin de l'éducation pour nous dire dans quel monde on se place, dans quel monde doit s'exercer notre liberté. On a bien besoin, dans un registre plus matériel, de la sécurité sociale pour nous affranchir des inerties, de tous les hasards qui brident l'exercice de nos facultés les plus éminentes. Je n'oppose pas du tout, et je conclurai là-dessus, la communauté politique à l'individu, bien au contraire. Je crois que les deux vont de pair, et ce n'est pas un hasard, si l'État moderne se développe en même temps que l'individu. En revanche, je crois qu'il y a bien, en ce sens, une fragilité intrinsèque. Je crois que cette fragilité est belle, c'est celle simplement du tâtonnement, de la réflexion, de l'incertitude perpétuelle au niveau individuel comme au niveau collectif, qui est celle d'une démocratie.
Et justement, je souhaiterais réagir, parce que je crois que vous dites que vous n'opposez pas l'individu à la communauté, c'est heureux. En revanche, ce que vous faites, c'est que vous placez la communauté au service des individus. Et quelque part, votre logiciel même de fondation d'une communauté politique, c'est la maximisation des possibles individuels. Quand vous parlez de le faire ensemble, ça n'est qu'une condition pour la réalisation de la maximisation des possibles individuels. Ce qui aboutit soit à un irénisme total, parce qu'on imagine alors, on sait bien que la raison pour laquelle on ne veut plus imposer notre vérité, c'est parce qu'on considère qu'elle est irréductiblement antagoniste à celle des autres. Et donc, vouloir, par la collectivité, maximiser les possibles de tous les individus, c'est totalement irénique. C'est la politique de la sortie de la politique. On imagine que face au chômage, face à la mauvaise santé, face à l'insécurité, eh bien, il peut y avoir une réponse qui nous unifierait tous face à des menaces extérieures. Mais non, dans ces cas-là, vous niez toute diversité, tout clivage politique qui peut exister entre des hommes avec des conceptions très différentes. Donc, votre logiciel de la maximisation des possibles, il est totalement irénique et il suppose donc qu'un État, une structure politique, ou plutôt une espèce de mastodonte, un régulateur, puisse distribuer les droits, les répartir au mieux pour réguler des conflits individuels où chacun va chercher, comme le phénomène du passager clandestin, chacun va chercher à retirer ses marrons du feu. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui doit dépasser l'individu. Et je crois que ce n'est pas la communauté qui doit se mettre au service de l'individu, mais c'est l'individu qui doit servir et s'ouvrir à plus grand que lui. Nous ne nions pas, ni l'un ni l'autre, je pense, l'individu et la collectivité. En revanche, je crois que nous avons des schémas très différents. Pour vous, la collectivité sert l'individu, et moi je pense que ce qui donne à l'individu l'impression de s'augmenter, puisque c'est un terme que je reprends du vocabulaire, il a besoin de servir, il a besoin de s'ouvrir à plus grand que soi. Et ça ne passe pas par l'idéal de la maximisation des possibles, ce n'est pas vrai. Le pompier qui va dans Notre-Dame en feu, il ne maximise pas son possible. Vous parliez d'il y a quelques années, il y a des anciens temps où vous expliquez qu'il y avait une espèce d'autorité transcendante qui s'impose aux individus, mais enfin, les petits pioupiou qui sont allés se battre en 14-18, c'était pas pour maximiser leur possible, et c'était pas, vous le dites dans votre livre, pour un caprice de souverain qu'il y allait, non, c'était pour défendre sa terre. Et il y avait quelque chose qui le dépassait ici. Je ne justifie évidemment pas l'hécatombe qui s'en est suivie, mais j'admire simplement ce courage d'hommes qui se sont donnés à plus grand qu'eux. Et je pense que cette idée d'un passé où la transcendance viendrait nous écraser témoigne, à mon avis, d'une méconnaissance historique. Alors je ne suis pas historien, donc je ne saurais vous redresser précisément ce que vous avez pu écrire, mais il me semble en tout cas que il y a une opposition trop facile entre l'ancien monde avec la droite qui, vous le disiez, pour elle, une société juste passe par l'inégalité à l'école et pourquoi pas aussi des ogres qui mangent des enfants. Enfin, je veux dire, les choses sont plus complexes et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque essentiellement, c'est de retrouver l'inachèvement de l'homme, je suis d'accord avec vous, son incertitude, mais l'incertitude qui ne peut être fondamentalement comblée que par l'autre. et donc la nécessité d'une communauté politique qu'il doit servir. Voilà ce à quoi je pense et ce qui nous distingue, à mon avis, profondément.
David Amiel.
Oui, alors je suis content parce que du coup, ça permet effectivement d'expliciter le désaccord et donc nous y venons. Je crois qu'au fond, notre désaccord ne porte pas de sens sur l'importance d'une communauté politique, effectivement sur son fondement. Là, je dois dire que je suis un peu surpris par les propos que vous tenez. Je crois que réduire une défense de la liberté individuelle, de l'autonomie comme exercice de la raison à une forme d'égoïsme, vous parliez des pompiers qui rentraient dans Notre-Dame en feu, n'est valable ni en droit ni en fait. Je veux dire, ni en droit, il y a quand même un grand nombre de morales laïques appuyées sur la raison. D'ailleurs, vous les discréditez assez rapidement. Je ne suis pas philosophe, mais je trouve qu'expédier dans votre livre, comme vous le faites en deux lignes, l'impératif catégorique de Kant comme pas très convaincant, témoigne à mon avis d'une certaine manipulation, en tout cas une certaine torsion des choses. Et ce n'est pas valable non plus en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette société d'individus que vous dénoncez permet précisément ces actes de désintéressement. Et ce n'est pas parce que nous sommes guidés par notre raison que nous avons un recul critique par rapport aux grands ensembles dont vous parliez, par rapport aux religions écrasantes d'autrefois. On ne vit plus du tout la religion sur le même mode qu'aujourd'hui. Par rapport aux idéologies politiques, on les examine avec plus de circonspection qu'on verse dans l'égotisme le plus absolu. D'ailleurs, vous donnez un exemple qui m'a beaucoup frappé dans votre livre. Vous dites, la preuve, finalement, que l'individu est une fiction, c'est que Giroud était bien content d'avoir gagné la Coupe du Monde avec ses amis et ses camarades, quand bien même il n'avait pas marqué. Mais j'en vais vous dire la preuve. Ça montre bien que même dans notre société d'individus, même dans le secteur probablement qui valorise à l'excès les comportements les plus égoïstes, c'est-à-dire le monde du sport de haut niveau et le football, eh ben, on n'attend pas à une vérité anthropologique la plus élémentaire. En revanche, je pense qu'effectivement le fondement de notre société reste cette aspiration à l'émancipation, à la liberté. Et je pense que pour prétendre s'en dispenser à ce niveau-là, il faut, au niveau d'abord philosophique, définir un fondement alternatif. Vous dites, l'individu a des devoirs envers la communauté. Moi, je vous dis, oui, l'individu a des devoirs envers la communauté, parce que cette communauté permet l'exercice de la liberté humaine. Je veux dire, sans école qui nous transmet ce que c'est que le monde que nous habitons, je veux dire, on aurait la liberté d'un aveugle. Mais vous, vous dites non, la communauté renvoie à autre chose. Mais dans ce cas-là, à quoi ? D'où vient le sens ? D'où vient le fondement ? D'où vient la légitimité première ? Et au niveau politique, puisque c'est aussi cela la question d'Alain Finkielkraut, je veux dire, il faut quand même avoir le courage de ce que ça implique, de dire que la maximisation des possibles n'est pas intéressante. Je veux dire, quand on prend les paramètres essentiels de l'existence, puisque quand on parle de permettre à chacun de maîtriser sa vie, ce n'est pas faire ses courses au supermarché, c'est choisir, permettre à chacun de choisir davantage sa profession, son lieu de vie, ses loisirs, ses convictions politiques. Je veux dire, est-ce que c'est là-dessus que vous revenez ? Et je crois qu'il y a un point, peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure, mais je crois que nous faisons une analyse radicalement différente, par exemple, de la crise des Gilets jaunes, qui illustre bien ces différences.
Je souhaitais vous...
Paul-François Chira, et j'interviendrai ensuite.
Je suis, qu'on ne se méprenne pas sur ce que j'ai dit, je ne dis pas que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'individualisme sans foi ni loi. Ce serait totalement contraire à la réalité. Et je citais l'exemple d'Olivier Giroud comme étant évidemment une démonstration de ce que l'individualisme ne suffit pas et d'ailleurs n'est pas non plus la loi absolue qui s'impose aujourd'hui. En revanche, ce que je critique volontiers, c'est que dans votre manifeste et dans donc toute la théorie politique qui en découle, vous ne parliez absolument pas de ce qui permet justement de dépasser cet individualisme. La maximisation des possibles, ça reste l'idée selon laquelle chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut tant que ça ne nuit pas à autrui. Et je crois que c'est radicalement impossible de fonder une communauté politique sur le seul objectif, le seul idéal de la maximisation des possibles, quand bien même on rajouterait ensuite, pour faire bonne mesure, la maximisation des possibles individuels ensemble. Ce que je ne vois pas très bien d'ailleurs ce que ça peut vouloir bien dire. Alors, l'émancipation, la liberté, tout ça, c'est vrai que c'est très beau. Évidemment que l'homme a besoin de liberté, et Simone Veil l'expliquait très bien. Mais je pense que ce qui fonde une communauté politique, ça n'est pas la liberté première de l'homme, non. Je pense que l'homme n'a de liberté que parce qu'il la reçoit. Et je pense donc naturellement que c'est Aristote le disait, c'est l'amitié qui fonde une communauté politique. C'est l'amitié avant la liberté. Bien sûr que la liberté se nourrit d'amitié et que l'amitié nourrit la liberté. Mais je pense que sans cette notion d'amitié, qui va vous paraître peut-être tarte à la crème, mais si vous me le permettez, la maximisation des possibles peut aussi lui paraître ainsi. Je pense que l'amitié civique fonde la communauté politique et que cette amitié ne peut pas exister entre des individus dont on dit que leur seul objectif c'est de maximiser leur possible, y compris en le faisant ensemble, c'est-à-dire par souci d'efficacité ou par gain personnel parce qu'on éprouve du plaisir à s'engager. engagé. C'est les deux motifs de l'engagement que vous décrivez dans votre livre. Je ne crois pas que l'individu puisse effectivement servir une quelconque communauté politique avec ce seul idéal.
Mais vous dites, enfin, vous parlez donc, David Amiel, de maximisation des possibles, l'individu qui se définit par ses droits. Et effectivement, aujourd'hui, on vit une extension quasi illimitée des droits individuels. Mais précisément, notre temps ne demande-t-il pas autre chose aujourd'hui? C'est-à-dire que nous avons des devoirs envers la communauté, dit Paul-François Chira, mais nous avons aussi des devoirs envers le passé, envers nos descendants, envers la beauté du monde et envers la Terre. Là, je voudrais vous lire l'extrait d'un texte du philosophe tchèque Jan Patočka, qui est très intéressant. Il dit à quoi nous sommes-nous accoutumés à l'ère technique, à revendiquer constamment et à en appeler à nos droits. Nous croyons avoir le droit d'exploiter le monde entier, précisément nous qui existons maintenant, sans tenir compte de ceux qui viendront. Ce droit ne fait pas question pour nous et nous ne nous demandons pas non plus dans quel but nous gaspillons tout cela. L'écologie nous invite à fixer des limites, à restreindre même le champ des possibles, à préserver l'existant. Donc n'êtes-vous pas en porte-à-faux avec l'une des urgences de notre temps, David Amiel ?
Alors sur l'écologie, je ne crois pas. D'ailleurs, quand on lit le premier principe du progressisme, puisqu'il y en a deux autres, donc je reviendrai là-dessus. Effectivement, le premier principe, comme on l'énonce, c'est la maximisation des possibles des individus présents et futurs. Et je crois qu'effectivement, une des manières de penser la crise environnementale, c'est d'une part une réduction des possibles immédiats, puisque nous voyons bien que la diversité des paysages, la diversité de la nature se retire à nous. Et donc les possibilités qu'on a de goûter à la fois les glaciers de l'Antarctique, ne serait-ce que par le truchement de la télévision, ou bien les forêts peuplées d'oiseaux et d'insectes, se retire à nous. Et donc, clairement, c'est une réduction de notre dignité humaine, de notre possibilité, en un sens, c'est-à-dire précisément de notre capacité d'exercice de notre humanité. Et puis, futur, c'est l'évidence même, et en ce sens, je crois que l'écologie repose d'une manière complètement différente la relation qu'on entretient avec les relations futures, puisque autant toute action politique a toujours un effet sur l'avenir, et donc il y a toujours un arbitrage, comme diraient les économistes, entre ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous faisons demain. Nous faisons de la dette publique parce qu'il y a des investissements bons pour aujourd'hui, mais qui auront un coût pour nos enfants. En revanche, l'environnement le pose de manière complètement différente, puisqu'il y a quelque chose qui ne sera plus jamais accessible aux générations futures si nous ne sommes pas à la hauteur de notre responsabilité. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit contradictoire.
Ah, c'est pas contradictoire, sauf que Hans Jonast, lui, écrit ceci: « Sous l'éclairage orageux de la menace émanant de l'agir humain, l'éthique qui s'impose est une éthique de la conservation, de la préservation, de l'empêchement, et non une éthique du progrès et du perfectionnement. » Et il est vrai que parfois je me dis que le progressisme m'évoque un peu un thé dansant à bord du Titanic, si vous voulez. Beaucoup de choses se perdent aujourd'hui et on parle en termes de progrès au lieu de préserver, de sauver ce qui peut l'être.
D'abord, le progrès dont on parle n'est pas du tout un progrès mécanique. En un double sens, c'est que ce n'est pas le progrès technologique. Il y a des innovations qui sont mauvaises parce qu'elles détruisent l'environnement ou parce qu'elles restreignent la liberté humaine. C'est-à-dire, je me réjouis absolument pas de ce que l'intelligence artificielle puisse amener à enfermer nos existences dans une cage d'algorithmes, comme je ne me réjouis pas que la pollution de l'industrie détruise la planète. Donc ce n'est pas un progrès technologique et, conséquence de cela, ce n'est pas un progrès automatique. C'est-à-dire que ça ne dit certainement pas que demain sera forcément mieux qu'hier. Et là, je viens au point que vous disiez sur conserver le monde. Je crois que c'est très important de ne pas opposer, en tout cas ce qu'on essaie de faire dans notre livre, notre progressisme au conservatisme. C'est-à-dire que si le débat politique devient une opposition entre une philosophie pour laquelle demain est toujours mieux qu'aujourd'hui, ou hier est nécessairement mieux que demain, on voit bien que c'est absurde, l'antériorité ou la postériorité ne sont pas des critères normatifs. Donc bien sûr qu'il faut examiner les nouveautés avec peut-être encore plus de scrupules et d'attention qu'on examine l'héritage qui nous est légué. Mais je crois avec le même esprit critique et le même esprit de raison au service d'un idéal qui ne peut pas se résoudre à la conservation stricte.
Oui, alors ça, je suis absolument d'accord
avec vous.
Effectivement, ce clivage serait, je pense, délétère et puis absurde, comme vous l'avez très bien décrit. En revanche, moi, ce qui, je voudrais rebondir sur l'exemple de l'écologie, mais là encore, ce qui me paraît important de souligner sur la forme et puis ensuite sur le fond, sur la forme, c'est que la maximisation des possibles, dites-vous, est votre premier principe. Ensuite, vous ajoutez des individus présents et à futur, et ensuite vous ajoutez, et puis il faut le faire ensemble. Et à la fin, on a l'impression qu'avec ces grands concepts, vous cherchez à tout englober. Bon, surfant sur des contradictions majeures, l'individu n'est pas présent et futur. L'individu, il est présent. C'est l'immédiateté de l'individu. Dès lors que vous parlez d'un futur, vous parlez d'une responsabilité, donc de quelque chose qui dépasse l'individu et qui dépasse sa maximisation des possibles. Donc je ne comprends pas comment conceptuellement on peut réunir les deux. Et de même, parler de la maximisation des possibles ensemble, mais on ne peut pas fonder un projet politique, puisque vous parlez du tâtonnement collectif, et ce en quoi je crois, mais je ne pense pas qu'on puisse fonder un tâtonnement collectif sur la base, encore une fois, du premier principe de la maximisation des possibles individuels. C'est le passager clandestin, c'est la tragédie des communs, c'est le dilemme du prisonnier, tous ces concepts économiques. Donc, je pense que
c'est
vous
quoi le passager clandestin?
Le passager clandestin, c'est que tout le monde s'impose des règles, il y en a un plus intelligent qui va s'en exonérer et bénéficier du coup de ce qu'un environnement favorable, puisque tout le monde les respecte, mais lui, il va en tirer un avantage supplémentaire parce qu'il aura triché. Et la maximisation des possibles, ça conduit précisément à ce type de passager clandestin. Je veux dire, le trader en 2008 avec la crise des subprimes, il a maximisé ses possibles, lui, avec un coût social gigantesque. Mais je pense que dans cette idée de maximisation des possibles, et même la condition de le maximiser ensemble, on oublie totalement la question du sens. De où, de pourquoi, de quel est ce sens. Et je pense que si on estime que le but d'une collectivité est de maximiser les possibles des individus, c'est-à-dire de vouloir, mais vouloir quoi? Et dès lors qu'on ne pose aucune légitimité à la limite du vouloir quoi, il n'y aura qu'une guerre entre individus, qu'un conflit indépassable, sauf, et là je pense qu'on arrive exactement au point où vous vouliez arriver, sauf un État surpuissant qui effectivement régule à Paris, qui distribue les droits, qui arbitre les conflits, et dans ces cas-là, la déresponsabilisation de la société, notamment à l'égard de l'écologie, est totale.
Là maintenant, je voudrais qu'on se projette dans l'avenir, c'est-à-dire on se demande le monde que l'on veut, mais ma question ce sera, vers quel monde allons-nous? Imaginons la France dans 50 ou dans 100 ans. Mon hypothèse est, je ne vous surprendrai pas, assez pessimiste. Je ne vois rien qui freine l'archipélisation décrite par Jérôme Fourquet. Je ne vois rien non plus qui freine la construction d'éoliennes qui transforme les paysages nos campagnes en paysages industriels, puisque l'écologie ne se soucie pas, l'écologie politique, l'écologie dominante, ne se soucie pas beaucoup, en dépit des avertissements de Fabrice Nicolino, justement de la beauté du monde. Donc toujours plus d'éoliennes et un pays toujours plus fragmenté, communautarisé. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter ça? Et pensez-vous que nous allons, en réalité, vers autre chose, David Amiel?
En un sens, je crois que nous avons les ressources pour y faire face. Donc pourquoi y a-t-il une telle atrophie de la liberté humaine dont l'archipélisation participe sans aucun doute, c'est-à-dire l'enfermement de chacun dans son archipel géographique, ethnique, social? Parce que précisément, nous avons perdu les instruments qui nous permettaient de faire une communauté politique et donc de définir ce que disait Paul-François Chirac, donc sur ce point nous étions en accord, un bien commun. La bonne nouvelle, c'est je crois que l'esprit de civisme, de dévouement, n'a pas disparu. Je ne crois pas qu'il ait été engouffré par l'abîme de la modernité que vous dénoncez. Je crois, d'ailleurs il suffit de le voir, le dynamisme des associations reste très fort, le dévouement, vous citiez, celui d'Olivier Giroud, celui des pompiers reste là. On voit qu'il y a même dans le domaine politique autant une joie des gilets jaunes à se retrouver autour des ronds-points, des gens qui étaient le plus éloignés de ce type d'engagement, que celui des marcheurs à aller frapper à des centaines de milliers de portes. En revanche, je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les modalités d'exercice de cette envie, c'est les débouchés de ce civisme. Et je crois que, et c'est tout, c'est l'essentiel presque de notre livre, il faut repenser cette communauté politique. Que s'est-il passé, au fond, dans ces dernières décennies? Sur quoi doit-on revenir? Il y a eu d'un côté la perturbation de la nation, qui au fond était le cadre d'exercice de cette liberté, qui réconciliait ce que Paul-François Chirac dénonce, un État puissant et un individu émancipé. Cette nation a été brisée sous le poids de la mondialisation dans toutes ses dimensions. La mondialisation culturelle nous a priver des liens qui nous reliaient à notre passé. La crise de l'école n'en est qu'un des nombreux symptômes. Nous y consacrons un certain nombre de pages et donc la possibilité d'avoir des références, un cadre de discussion commun. La mondialisation migratoire a aussi créé une société multiculturelle qui rend le civisme, la participation collective, plus difficile quand les gens sont plus éloignés les uns que les autres. À ce titre, nous sommes, et nous le disons dans le livre, nous devons être très exigeants sur l'immigration, nous devons être implacables contre les dérives sécessionnistes, contre l'islamisme fondamental, et puis plus généralement faire vivre une politesse civique, c'est-à-dire de mettre en avant ce qui nous est commun, plutôt que nos identités particulières. Et puis enfin, je crois qu'il faut reconstituer, et c'est là où nous consacrons le troisième principe du progressisme, à une refonte complète de nos organismes politiques. Au fond, nous avons perdu les leviers d'action qui nous permettaient d'avoir prise sur le monde. On vote pour des hommes politiques qui semblent de plus en plus impuissants à changer les choses. Probablement d'une part parce que la communauté qui permet de le faire a été considérablement fragilisée, c'est ce que je viens de dire, mais aussi parce qu'ils n'ont plus les instruments pour peser. Je crois que c'est vrai à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale.
Paul-François Girard.
Je serais pas effectivement aussi pessimiste. Je pense qu'il existe des chemins. Et je serais assez d'accord avec David Amiel sur l'existence de dévouement et de cette soif de se donner à quelque chose de plus grand que soi. Et je pense notamment que cette soif s'exprime de manière très différente par des associations bien sûr, dans les entreprises également. Et je pense qu'elle se heurte cette soif, elle se heurte à une indifférence souvent à leur égard. Et je pense très sincèrement que les gilets jaunes, que les mouvements dits populistes, et je vais peut-être choquer, mais je vais même jusqu'à dire que certains de ces convertis au salafisme recherchent, ont une demande de sens, il y a de sens à leur vie, d'appartenance et de reconnaissance, encore une fois. Et je pense que si on n'y répond pas, si on continue à expliquer que le seul but de la vie politique, c'est la satisfaction des intérêts de chacun, sachant qu'en plus, plus on promet cette autonomie et plus on la déçoit, parce que le progrès ne supprime pas les contraintes, il ne fait que les déplacer, les recréer ailleurs, créer des besoins, des addictions, des dépendances, ou soumet l'individu à des forces beaucoup plus diffuses, comme les GAFA par exemple, alors qu'avant la force était peut-être un peu plus visible, mais en tout cas plus structurée. Je pense que plus on continue à lui dire que le but de sa communauté politique, c'est son épanouissement individuel, et je pense qu'on va là, on ira droit dans le mur.
Alors, arrêtons-nous justement au populisme. Ceci triomphe aujourd'hui en Italie et en Europe centrale. Salvini, Kaczynski, Orban. Le populisme a été défini très intelligemment par Jean Werner Müller comme une prétention à la représentation exclusive d'une peuple, d'une part, une essentialisation de la communauté nationale, et aussi, c'est très intéressant, une moralisation du conflit politique, c'est-à-dire le conflit politique vu en termes exclusivement moraux. Mais justement, c'est très intéressant, les populistes veulent unir leurs forces dans une espèce de contre-révolution culturelle en Europe, un Kulturkampf, et, par exemple, Kaczynski, Orban et Salvini désire s'ériger en héros de l'enracinement dans une identité fondée sur la famille, la nation, la religion et la culture nationale. Et le Rassemblement national, justement en France, suit la même voie. Alors qu'est-ce qui distingue, Paul-François Girard, votre idée de l'enracinement et celle-là? Croyez-vous justement à la nécessité d'une union entre le conservatisme qu'avec François-Xavier Bellamy vous défendez et cette forme-là de populisme pour renverser la vapeur et vaincre l'idéologie progressiste sous ses différentes formes, en France notamment. Paul-François Girard.
Je pense que ce qui est essentiel, c'est de ne pas traiter avec le mépris avec lequel il a été traité les demandes, parfois mal exprimées, qu'ont eu toutes ces personnes qui ont souhaité s'engager dans le vote dit populiste, notamment le Rassemblement national en France. Je pense que ce serait une erreur monumentale, parce que cette demande, encore une fois, je parle bien de la demande, cette demande, je pense qu'elle est non seulement là et évidemment présente, mais je pense en plus qu'elle est nécessaire et légitime. Cette demande de sens, d'appartenance, de reconnaissance, cette demande de reposer ses bagages pour enfin essayer de faire grandir autour de soi, non pas une communauté fantasmée d'une grande union des humains par travers le monde avec un État mondial qui viendrait nous gouverner, nous concilier, nous réguler de manière efficace, mais qu'on vienne exercer de manière concrète et réelle cette liberté politique avec forcément ses contraintes identifiées, reconnues et acceptées. La contrainte notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure, du passé. Donc je pense que cette demande doit être traitée avec beaucoup de sérieux et je pense que dans cette demande réside notre espoir. En revanche, l'offre qui répond à cette demande, je pense qu'elle, je ne sais pas quelle est la poule, quelle est l'œuf, mais elle répond en tout cas de manière vraiment démagogique à cette angoisse et elle surfe également sur le mépris dont elle fait l'objet pour exacerber encore plus le conflit avec effectivement des pensées qui peuvent être parfois très vulgairement exprimées ou qui peuvent être totalement fausses sur le plan sociologique, historique, avec le fantasme d'un peuple homogène, etc., dont que vous aviez évoqué. Donc je pense que le devoir de cette élite qui a tant souffert des gilets jaunes, je pense que c'est de répondre à cette demande qui n'est pas, et là je terminerai en lançant une dernière petite pique à David Amiel, mais qui n'est pas la frustration d'une promesse d'autonomie, mais qui est la frustration d'un besoin de sens, d'appartenance et de reconnaissance.
Oui, je dirais pour ma part que ce qui m'accable aujourd'hui, c'est le face-à-face entre deux caricatures. D'un côté, une Europe pénitentielle qui réunit ses propres trésors et qui n'en a que pour l'autre, et de l'autre côté, une Europe sans honte et sans regret, qui pourchasse l'esprit des Lumières, comme on le voit faire, notamment avec en Pologne, avec la promotion de la Pologne éternelle, éternellement victime, éternellement héroïque. Mais comme on le voit aussi en Italie, ou éventuellement dans la frange populiste de la politique française. Et ce face-à-face a effectivement quelque chose de désespérant. David Amiel.
Non, je crois que nous sommes d'accord pour dire que le populisme n'est pas un projet positif, mais l'expression d'une déception. Quelle est-elle ? Elle est très certainement l'expression d'une déception par rapport à l'incapacité à maîtriser notre destin collectif. Take back control, s'il y a bien un slogan qui est commun à tous les populistes, malgré toutes leurs différences, c'est bien celui-là. La question qui se pose ensuite, c'est au nom de quoi ? Moi, je crois que c'est aussi au nom de reprendre le contrôle sur nos propres vies. Quand les gilets jaunes sont allés sur les ronds-points, ils n'ont pas exprimé. Alors, elle était probablement sous-jacente dans certains cas, mais une demande d'abord identitaire. C'est d'abord une demande de mobilité sociale par l'emploi, de mobilité physique par la voiture. Donc, je crois que c'est à ça qu'il faut répondre, qui n'a d'ailleurs été compris ni par la gauche traditionnelle, ni par la droite traditionnelle. Ensuite, un point sur l'identité européenne. Oui, et puis pardon, je finis sur les gilets jaunes, sur ce que vous disiez, Paul-François Chira. Je trouve que vous êtes un peu, on voit dans votre livre, un peu orphelin par rapport à cette crise. Alors la seule chose que vous dites aux gilets jaunes, vous avez tort de demander ce que vous demandez, ça ne nous conduit qu'à la guerre civile. Bon, moi je crois que les gilets jaunes ont raison de demander que les promesses qui sont accordées à quelques-uns soient honorées à eux, et que si certains peuvent s'en sortir, et en tout cas faire en sorte que leurs enfants s'en sortent par l'école, par l'emploi, parce qu'ils travaillent dans la bonne entreprise et vivent dans la bonne ville, ça puisse être le cas pour eux aussi. Et je pense que les renvoyer à une sorte de sens un peu évanescent est une forme de mépris, d'aveuglement pour ne pas dire de mépris plus exactement. Ensuite, vous disiez, Alain Finkielkraut, sur l'identité européenne. Oui, il y a bien sûr une défense de la culture européenne. Et en un sens, celle-ci se perd. Je crois d'ailleurs qu'on parle beaucoup de la question migratoire. Je pense que la question scolaire est tout aussi importante. Et que le passé qui nous relie aux grandes œuvres, aux grands monuments de l'esprit, se délie aussi bien quand le niveau de l'école primaire s'effondre que quand l'intégration ne s'opère pas. Maintenant, je crois que c'est plus qu'une culture, l'Europe, c'est une civilisation. Et donc une civilisation, c'est une culture plus des valeurs. Et je crois précisément qu'au cœur de ces valeurs, il y a cette défense de la liberté individuelle. Et c'est ça qui nous fait que l'Europe n'est pas qu'un exotisme. C'est une part à part de l'histoire mondiale. C'est la part par laquelle cette liberté individuelle est d'abord survenue. Je voudrais juste citer Paul Valéry, parce que je trouve que c'est une très belle citation. Il dit « Notre particularité et parfois notre ridicule ». Peut-être Paul-François Chira pensera-t-il ainsi.
Oui,
c'est de nous croire, de nous sentir universels, observer le paradoxe, avoir pour spécialité le sens de l'universel. Et je trouve que c'est très grave de vouloir, au nom d'une défense de notre identité, renoncer à cette part d'universel, à cette part d'idéal qui nous habite et qui fait notre plus grand honneur.
Alors, sur l'universel,
François Girard.
Là, je pense qu'il y a un malentendu qu'il faut absolument dissiper et qui nous distingue là encore. Il y a deux façons d'aborder l'universel. Soit vous diluez l'individu dans le monde en disant le monde se résout à cette juxtaposition d'individus et donc il est interchangeable et donc ils sont tous les mêmes et donc l'Europe est ouverte à tous les vents, circulez-y librement et puisez-y vos droits et nous transformerons vos vies telles que vous le voulez, en fait, où l'État devient une sorte de GAFA gigantesque. Et puis on a un autre universalisme qui a la prétention de dire que notre modèle peut convenir à des personnes qui ne viennent pas de notre horizon. Et donc, qui justifie des politiques d'intégration. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle. L'universalisme ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle, qu'il n'y a pas d'identité. Il veut dire, cet universalisme, que ce modèle, cette identité, peut être reçu par d'autres que ceux qui l'ont déjà reçu. Alors, simplement sur les gilets jaunes, tout de même, en réponse à ce qu'a dit David Amiel, puisque l'aveuglement et le mépris, je l'ai bien entendu. Je pense que le mépris n'est pas forcément là où on pense qu'il se trouve. J'ai une autre citation, celle de Saint-Exupéry. Car celui-là même qui veille quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus que serviteur, il est sentinelle, et chaque sentinelle est responsable de tout l'Empire. L'éleveur de moutons ne demande pas à devenir cadre sup dans une banque. Il ne demande pas à faire une meilleure université que celle qu'il a faite. Il ne demande pas de changer de métier. Il ne demande pas d'avoir une voiture. Il ne demande pas cette mobilité que vous affichez. Et les gilets jaunes ne demandaient pas une mobilité, mais jamais de la vie. Les gilets jaunes estimaient qu'on leur taxait une mobilité qui leur était imposée, précisément imposée. Donc je pense qu'au contraire, le besoin des gilets jaunes, c'était la permanence. Et d'ailleurs, on les voit autour des bras zéro. Ils se réchauffent. Ils ont enfin une communauté, puisque tout a éclaté autour d'eux, leur famille, puisque leur travail sont généralement des professions, des commerçants, des artisans, ils n'ont pas de salariés, ou très peu.
La politique et le tenu,
attendez, laissez-moi simplement finir. Et donc, ils ont ce besoin d'enracinement, celui dont je parle, qui n'est pas l'enracinement barésien, on en avait évoqué tout à l'heure, qui est un enracinement, de dire, j'appartiens à une communauté qui m'est chère, qui m'est proche, et c'est cette communauté-là que je veux servir. Et ces communautés, on ne leur a pas offertes. Et je pense qu'il y a beaucoup de mépris à considérer que, voilà, l'éleveur de moutons, en fait, ce qu'il demande de faire, c'est de devenir banquier.
C'est important que vous fassiez la distinction, parce que le mot d'enracinement est au cœur de l'idéologie ou de la philosophie de Barrès.
Oui.
C'est aussi le titre donné par Camus au livre posthume de Simone Veil, mais elle fait de l'enracinement un des besoins principaux de l'âme humaine, sauf que l'enracinement chez Barrès, c'est Barrès pousse très loin la métaphore de l'arbre, et il absolutise la différence entre le français de souche enraciné et le français d'origine étrangère qui n'est pas capable justement de comprendre l'essence de la civilisation française. Vous ne vous reconnaissez pas dans cette idée-là de l'enracinement.
D'où l'universalisme d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure. C'est que je pense que cet enracinement n'a rien d'ethnique, il n'a rien de renfermé non plus. Je pense que c'est la médiation nécessaire à l'ouverture au monde.
David Amiel.
Non, je crois que la difficulté précisément pour le progressisme que je défends, c'est de se devoir se battre sur deux fronts, en quelque sorte. Il y a effectivement le front de l'individualisme néolibéral, celui qui considère que l'individu n'a pas besoin d'être adossé à une communauté de destin, à une communauté politique, pour être pleinement lui-même. Et puis de l'autre côté, il y a ce que vous dénoncez vous, c'est-à-dire l'emprise de l'État sur nos vies, qui, dites-vous, dissolve en quelque sorte les solidarités charnelles et qui permettent trop à l'individu d'être lui-même. Et il y a un exemple dans votre livre que vous donnez qui, je crois, permet d'éclairer ce débat. Vous parlez de la sécurité sociale. Et vous parlez, en l'occurrence, des politiques du vieillissement. Et vous dites que les EHPAD sont souvent indignes et que finalement envoyer des personnes âgées, les faire prendre en charge par la sécurité sociale, c'est se libérer de nos solidarités privées, de nos obligations plus charnelles qui nous donnent plus de sens. Bon. Que les EHPAD soient indignes, c'est une évidence. Qu'il faille retourner aux solidarités privées, je ne crois pas. À nouveau, parce que ça veut dire quoi la solidarité privée ? Ben, ça veut dire qu'effectivement, pour ceux qui ont les moyens, ils auront les avantages de l'un et de l'autre. En revanche, je crois que pour une mère seule, comment fait-elle pour choisir entre s'occuper de ses enfants et s'occuper de ses parents ? En plus, je suppose qu'on la veut citoyenne engagée dans une association. Et je crois que là, on touche un point clair qui, pour moi, est une impasse d'un certain conservatisme de droite aujourd'hui. C'est qu'il se fait, en tout cas le complice, je crois, objectif, de gens qui, en quelque sorte, veulent tous les avantages du monde moderne, c'est-à-dire l'émancipation, le droit pour eux-mêmes de faire des études prestigieuses, d'accéder à cette part d'universel dont on parlait, de changer de métier, et qui refusent aux autres, par une sorte de surcroît de luxe, le droit de s'intéresser à exactement la même chose.
Oui, Paul-François
Chirard.
Sur la sécurité sociale, je ne dis pas qu'il faut retourner à une solidarité privée. Je dis que par le biais de cette politique de sécurité sociale qui a ses avantages indéniables, on en est venu à oublier notre propre responsabilité à l'égard de nos ascendants. C'est tout, ni plus ni moins. En revanche, je suis d'accord avec vous sur cette alliance entre, quelque part, un discours conservateur théorique et puis une réalité d'une bourgeoisie qui, en fait, profiterait des fruits de la mondialisation. Je pense qu'elle est méprisable. Mais je pense qu'il est tout autant dangereux de faire promettre à toutes ces personnes qui aujourd'hui souffrent de cette promesse non tenue parce qu'intenable, de leur faire promettre qu'ils y arriveront un jour et que on aura bientôt, vous le dites vous-même dans votre livre, on aura bientôt une fonction publique faite que de cadres dirigeants parce qu'il faut qu'ils fassent plus d'études, il faut que tout le monde y arrive. Moi, je pense que cet idéal de la maximisation des possibles est une frustration permanente puisqu'elle recrée des contraintes, elle recrée des barrières, elle recrée des collectivités encore plus renfermées qu'avant, vraiment un communautarisme, et je pense que c'est précisément cet idéal qu'il faut abandonner en expliquant l'existence de limites.
Mais je crois que vous avez raison sur la frustration, en un sens, dans le contexte que je décris, dans celle au fond d'une démocratie républicaine, il y aura toujours de la frustration, mais pour une raison très simple, c'est que c'est une société qui est fondée sur l'inachèvement et l'égalité, comme dirait Tocqueville, non pas de fait, mais de conditions. Et donc, bien sûr, il y a toujours une interrogation, à la fois personnelle et collective, sur les différences de fait, sont-elles légitimes ou pas. Ça crée toujours des frustrations. Je crois juste qu'aujourd'hui, la société est arrivée à un tel degré d'illégitimité de ce à quoi les gens ont accès, que cette frustration est devenue insoutenable et insoluble dans le clivage politique traditionnel.
Oui, mais alors, justement, il est vrai, dans votre livre, « Le progrès ne tombe pas du ciel », David Amiel, vous prenez ce problème à bras-le-corps, et vous dites qu'il faut lutter contre les inégalités. C'est pourquoi vous dites aussi qu'il faut mener une lutte implacable contre les rentes. Alors d'abord, il faut rendre un hommage à la bourgeoisie des rentiers. N'oublions pas que Proust était rentier, que Flaubert était rentier, que sans cette bourgeoisie rentière, la culture française n'aurait pas brillé d'un tel éclat au 19e siècle. Et la post-bourgeoisie n'a pas tellement à se vanter de ce qu'elle est. C'est une jet-set, c'est pas génial. Bon, mais je vois un problème plus grave, si vous voulez, parce que on parle de civilisation. Et effectivement, dans la civilisation, il y a quand même une idée de permanence, de transmission, de génération en génération, si vous voulez. Mais une génération transmet à l'autre un héritage aussi bien spirituel que matériel. On a le sentiment, pour vous, que afin que tous les individus puissent maximiser ses possibles, eh bien, tout devrait recommencer à chaque génération. Donc, les héritiers sont suspects, sont coupables, et les parents eux-mêmes pratiquent le délit d'initié quand, justement, ils transmettent quelque chose à leurs enfants. Et il me semble qu'il y a là, quand même, un véritable problème. Si nos civilisations existent en tant que telles, c'est bien parce que des parents ont donné quelque chose à leurs enfants, et effectivement, ça crée des inégalités qu'il faut essayer de combattre, mais pas en recommençant tout à chaque génération.
Non, c'est pas juste ce qu'on dit. Je pense qu'il faut quand même distinguer le domaine économique du domaine culturel. Dans le domaine culturel, nous faisons au contraire un éloge de la transmission, de cette identité comprise comme une mémoire de tous ceux qui nous ont précédés. Et je crois précisément que c'est un des points sur lesquels nous rompons avec la gauche. Sur la question économique, la situation aujourd'hui n'est pas celle de l'héritage. La question est celle de l'immobilier. Nous vivons dans une société où, effectivement, on ne peut plus vivre dans les grandes villes si l'on n'a pas, alors, ou bien pour quelques-uns, un salaire démesuré, ou bien si l'on n'a pas hérité. Il faut un apport pour emprunter, il faut des garants pour louer. Je pense que ça pose un problème gigantesque en termes, effectivement, de maximisation des possibles, ne serait-ce que pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est le bien qui donne accès à tous les autres biens dans la société actuelle. Si vous ne vivez pas au bon endroit, vous n'avez pas accès à la culture parce que vous n'avez pas accès aux meilleures écoles. Si vous n'avez pas accès aux grandes villes, vous n'avez pas accès aux meilleurs emplois. Et donc ça pose un problème redoutable. Comment faut-il le résoudre ? On dit précisément que la taxation sur l'héritage n'est pas la bonne solution. On le dit explicitement.
Elle est très impopulaire en plus. Hein.
Précisément parce qu'elle est impopulaire pour des bonnes raisons.
Les gens ne supportent pas cette idée.
Parce qu'elle
soit riche ou moins riche.
Exactement, parce qu'elle consiste à utiliser un marteau gigantesque pour toucher un problème qui est beaucoup plus précis. Et donc ce que nous proposons, c'est effectivement d'une part des propositions de redistribution territoriale à destination de ceux qui vivent trop loin des grandes villes, c'est le cas des baisses d'impôts avec la taxe d'habitation, et puis plus généralement, une politique de redynamisation des territoires pour redistribuer les opportunités hors des grandes villes. Donc, c'est exactement cela que nous dénonçons avec la rente immobilière actuelle.
Moi, je pense que...
Pas François Chirard.
Ce que je disais en introduction, c'est à la question « Quel monde voulons-nous ?» David Amiel et Ismaël Emelien répondent « Celui que tout le monde veut ». Alors, c'est commode. C'est commode parce que on peut promettre de satisfaire tout le monde et d'ainsi créer un grand collectif luttant contre donc des maladies extérieures au corps social, en quelque sorte, que sont le chômage, la mauvaise santé, les catastrophes naturelles. Georges Sorel disait le progressisme était une idéologie précisément bourgeoise parce qu'elle cherchait en fait le maintien au pouvoir en diffusant dans la société un discours de propagande à forte tonalité optimiste qui permet de trouver des explications simples permettant, je le cite, de résoudre toutes les difficultés que présente la vie quotidienne. Et j'ai l'impression que avec ce manifeste, on a une promesse générale de dire eh bien, on va vous aider, on va vous changer votre vie, on va vous transformer toute votre vie. Je ne suis pas sûr que ce soit d'abord le rôle de la politique de transformer toutes les vies. Je pense que l'État ne doit pas se mêler de tout ce qui a trait à la vie individuelle. Et je pense surtout que c'est totalement inopérant. Je veux dire, les exemples qui sont donnés, alors mettre des professeurs dans des salles, lutter contre les rentes des GAFA, combler la fracture sociale, mieux redistribuer, mais qui est contre cela? Mais personne n'est contre cela. C'est quelque chose qui est tout à fait partagé. Ce sont des consensus, parce que évidemment personne n'y trouve un inconvénient. Et je pense que du coup cette promesse de la maximisation des possibles, elle est facile, mais elle est totalement intenable et elle conduit. Je finirai juste par là. Elle conduit les individus non seulement à se comparer en permanence à autrui, parce que l'autre va mieux maximiser que soi, et puis en plus la maximisation des possibles, elle est contradictoire dans une société démocratique, donc ils vont se heurter les uns aux autres, se tourner sur eux-mêmes, comme dit Tocqueville, en permanence, et en plus de ça, il y aura toujours besoin d'une contrainte, puisque c'est la contrainte qui manifeste la liberté. C'est votre liberté qui est de faire abolir les contraintes, je me choisis tout, je choisis ma vie, je choisis mon enfant, etc. Eh bien, on finit par recréer de nouvelles contraintes, et c'est tant mieux, puisque l'existence d'une contrainte motivera encore plus la liberté, excitera encore plus la machine à déconstruction.
Alors, je donne un dernier mot pour conclure, mais très très vite, David Amiel.
Je pense qu'au fond, nous devons, et c'est toute la difficulté du moment, résoudre la question de l'autonomie, c'est-à-dire comment permettre à la fois qu'elle s'exprime au niveau individuel et préserver le cadre collectif qui la rend possible. En ce sens, je crois que ce n'est pas contradictoire, c'est simplement effectivement complexe. Raymond Aron disait, je finirai là-dessus, que précisément la démocratie libérale n'est une pensée ni tiède ni facile, mais elle n'est pas faite pour les âmes tendres.
Bien. Merci beaucoup. Je rappelle les titres de vos livres, David Amiel, Ismaël Emelien, Le progrès ne tombe pas du ciel, ce manifeste est publié chez Fayard, Paul-François Chirat, La demeure des hommes pour une politique de l'enracinement, ce livre préfacé par François-Xavier Bellamy est publié aux éditions Talendier. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Où va Israël ?». Mes invités seront Marianne Gosselin et Jean-Pierre Filiu. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Bastien Varigaud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.